Chapitre 6. Des divers partis qui se faisaient remarquer dans l'Assemblée constituante. La direction générale des esprits était la même dans tout le parti populaire, car tous voulaient la liberté. Mais il y avait des divisions particulières dans la majorité comme dans la minorité de l'Assemblée. Et la plupart de ces divisions étaient fondées sur les intérêts personnels qui commençaient à s'agiter. Quand l'influence des assemblées n'est pas renfermée dans les limites de la législation, et qu'une grande partie du pouvoir, qui dispense l'argent et les emplois, se trouve entre leurs mains, alors dans tous les pays, mais surtout en France, les idées et les principes ne donnent plus lieu qu'à des sophismes qui font habilement servir les vérités générales aux calculs individuels. Le côté des aristocrates, que l'on appelait le côté droit, était composé presque en entier de nobles, de parlementaires et de prélats. À peine 30 membres du tiers-état s'y étaient réunis. Ce parti qui avait protesté contre toutes les résolutions de l'Assemblée n'y assistait que par prudence. Tout ce qu'on y faisait lui paraissait insolent, mais très peu sérieux, tant il trouvait ridicule cette découverte du XVIIIe siècle, une nation, tandis qu'on n'avait eu jusqu'alors que des nobles, des prêtres, et du peuple. Quand les députés du côté droit sortaient de l'ironie, c'était pour traiter d'impiété tout changement apporté aux institutions anciennes, comme si l'ordre social devait être seul condamné, dans la nature, à la double infirmité de l'enfance et de la vieillesse, et passer d'un commencement informe à une vétusté débile, sans que les lumières acquises par le temps puissent jamais lui donner une véritable force. Les privilégiés se servaient de la religion comme d'une sauvegarde pour les intérêts de leur caste. Et c'est en confondant ainsi les privilèges et les dogmes qu'ils ont beaucoup diminué l'empire du véritable christianisme en France. La noblesse avait pour orateur, ainsi que je l'ai déjà dit, M. de Casalès, anobli depuis 25 ans, car la plupart des hommes de talent parmi les anciens gentilshommes avaient adopté le parti populaire. L'abbé Maury, l'orateur du clergé, soutenait souvent la bonne cause, puisqu'il était du parti des vaincus, et cet avantage contribuait plus à ses succès que son talent même. L'archevêque d'Aix, l'abbé de Montesquieu, etc., spirituels défenseurs de leur ordre, cherchaient quelquefois, aussi bien que Casalès, à captiver leurs adversaires, afin d'en obtenir non un acquiescement à leurs opinions, mais un suffrage pour leur talent. Le reste des aristocrates n'adressait que des injures au parti populaire, et ne transigeant jamais avec les circonstances, ils croyaient faire le bien en aggravant le mal. Tout occupés de justifier leur réputation de prophètes, ils désiraient leur propre malheur pour jouir de la satisfaction d'avoir prédit juste. Les deux parties les plus exagérées de l'Assemblée se plaçaient dans la salle, comme aux deux extrémités d'un amphithéâtre, et s'asseyaient de chaque côté sur les banquettes les plus élevées. En descendant du côté droit, l'on trouvait ce que l'on appelait la plaine ou le marais, c'est-à-dire les modérés, pour la plupart défenseurs de la Constitution anglaise. J'ai déjà nommé les principaux d'entre eux. Malouet, Lally, Mounier. Il n'y avait point d'homme plus consciencieux dans l'Assemblée. Mais quoique Lally fût doué d'une superbe éloquence, que Mounier fût un publiciste de la plus haute sagesse, et Malouet un administrateur de première force, quoiqu'au dehors il fût soutenu par les ministres, ayant M. Necker à leur tête, et que souvent dans l'Assemblée, plusieurs hommes de mérite se ralliassent à leurs opinions, les deux parties extrêmes couvraient ces voix, les plus courageuses et les plus pures de toutes. Elle ne cessait pas de se faire entendre dans le désert d'une foule égarée. Mais les aristocrates exagérés ne pouvaient souffrir ces hommes qui voulaient établir une constitution sage, libre et par conséquent durable. Souvent, on les voyait donner plus volontiers la main aux démagogues forcenés, dont les folies menaçaient la France, ainsi qu'eux-mêmes, d'une affreuse anarchie. C'est là ce qui caractérise l'esprit de parti, ou plutôt cette exaltation d'amour-propre qui ne permet pas de supporter une autre manière de voir que la sienne. on remontait des impartiaux au parti populaire, qui, bien que réuni tout entier sur les questions importantes, se divisait en 4 sections, dont on pouvait aisément saisir les différences. M. de Lafayette, comme chef de la garde nationale, et comme l'ami le plus désintéressé et le plus ardent de la liberté, avait une grande considération dans l'Assemblée. Mais ses opinions scrupuleuses ne lui permettaient pas d'influer sur les délibérations des représentants du peuple, et peut-être aussi lui en coûtait-il trop de risquer sa popularité hors de l'Assemblée par les débats dans lesquels il fallait soutenir l'autorité royale contre les principes démocratiques. Il aimait à rentrer dans le rôle passif qui convient à la force armée. Depuis, il a sacrifié courageusement cet amour de la popularité, la passion favorite de son âme. Mais, pendant la durée de l'Assemblée constituante, il perdit de son crédit parmi les députés parce qu'il s'en servit trop rarement. Mirabeau, que l'on savait corruptible, n'avait guère avec lui personnellement que ceux qui voulaient partager les chances de sa fortune. Mais bien qu'il n'eût pas précisément un parti, il exerçait de l'ascendant sur tous, quand il faisait usage de la force admirable de son esprit. Les hommes influents du côté populaire, un petit nombre de jacobins exceptés, étaient Duport, Barnave et quelques jeunes gens de la cour, devenus démocrates. Hommes très purs sous le rapport de l'argent, mais très avides de jouer un rôle. Duport, conseiller au Parlement, avait été toute sa vie pénétré des inconvénients de l'institution dont il faisait partie. Ses connaissances profondes dans la jurisprudence de tous les pays lui méritaient à cet égard la confiance de l'Assemblée. Barnave, jeune avocat du Dauphiné, de la plus rare distinction, était plus fait par son talent qu'aucun autre député pour être orateur à la manière des Anglais. Il se perdit dans le parti des aristocrates par un mot irréfléchi. Après le 14 juillet, on s'indignait avec raison de la mort des 3 victimes assassinées pendant l'émeute. Barnave, enivré du triomphe de cette journée, souffrait impatiemment les accusations dont le peuple entier semblait l'objet. Et il s'écria, en parlant de ceux qu'on avait massacrés, « Leur sang était-il donc si pur ?» Funeste parole. Sans nul rapport avec son caractère vraiment honnête, délicat et même sensible, mais sa destinée fut à jamais gâtée par ses expressions condamnables. Tous les journaux, tous les discours du côté droit les imprimèrent sur son front, et l'on irrita sa fierté au point de lui rendre impossible de s'en repentir sans s'humilier. Les meneurs du côté gauche auraient fait triompher la Constitution anglaise s'ils s'étaient réunis dans ce but à M. Necker parmi les ministres et à ses amis de l'Assemblée. Mais alors, ils n'auraient été que des agents secondaires dans la marche des événements, et ils voulaient se placer au premier rang. Ils prirent donc, très imprudemment, leur appui au dehors dans les rassemblements qui commençaient à préparer un orage souterrain. Ils gagnèrent de l'ascendant dans l'Assemblée, en se moquant des modérés, comme si la modération était de la faiblesse, et que seuls fussent des caractères forts. On les voyait dans les salles et sur les bancs des députés, tourner en ridicule quiconque s'avisait de leur représenter qu'avant eux, les hommes avaient existé en société, que les écrivains avaient pensé, et que l'Angleterre était en possession de quelques libertés. On eût dit qu'on leur répétait les contes de leur nourrice, tant ils écoutaient avec impatience, tant ils prononçaient avec dédain de certaines phrases bien exagérées et bien décisives sur l'impossibilité d'admettre un Sénat héréditaire, ou un Sénat même à vie, un veto absolu, une condition de propriété, enfin, tout ce qui, disait-il, attentait à la souveraineté du peuple. Il portait la fatuité des cours dans la cause démocratique, et plusieurs députés du tiers-État étaient tout à la fois éblouis par leurs belles manières de gentilshommes et captivés par leur doctrine démocratique. Ces chefs élégants du Parti populaire voulaient entrer dans le ministère. Ils souhaitaient de conduire les affaires jusqu'au point où l'on aurait besoin d'eux. Mais dans cette rapide descente, le char ne s'arrêta point à leur relais. Ils n'étaient point conspirateurs, ils se confiaient trop en leur pouvoir sur l'Assemblée et se flattaient de relever le trône dès qu'ils l'auraient fait arriver jusqu'à leur portée. mais quand ils voulurent de bonne foi réparer le mal déjà fait, il n'était plus temps. On ne saurait compter combien de désastres auraient pu être épargnés à la France si ce parti de jeunes gens se fût réuni avec les modérés. Car avant les événements du 6 octobre, lorsque le roi n'avait point été enlevé de Versailles, et que l'armée française, répandue dans les provinces, conservait encore quelque respect pour le trône, les circonstances étaient telles qu'on pouvait établir une monarchie raisonnable en France. La philosophie commune se plaît à croire que tout ce qui est arrivé était inévitable. Mais à quoi serviraient donc la raison et la liberté de l'homme si sa volonté n'avait pu prévenir ce que cette volonté a si visiblement accompli? Au premier rang du côté populaire, on remarque l'abbé Seyès, isolé par son caractère, bien qu'entouré des admirateurs de son esprit. Il avait mené jusqu'à 40 ans une vie solitaire, réfléchissant sur les questions politiques, et portant une grande force d'abstraction dans cette étude. Mais il était peu fait pour communiquer avec les autres hommes, tant il s'irritait aisément de leurs travers et tant il les blessait par les siens. Toutefois, comme il avait un esprit supérieur et des façons de s'exprimer laconiques et tranchantes, c'était la mode dans l'assemblée de lui montrer un respect presque superstitieux. Mirabeau ne demandait pas mieux que d'accorder au silence de l'abbé Seyès le pas sur sa propre éloquence, car ce genre de rivalité n'est pas redoutable. On croyait à Seyès, à cet homme mystérieux, des secrets sur les constitutions dont on espérait toujours des effets étonnants quand il les révélerait. Quelques jeunes gens, et même des esprits d'une grande force, professaient la plus haute admiration pour lui, et on s'accordait à le louer aux dépens de tout autre, parce qu'il ne se faisait jamais juger en entier dans aucune circonstance. Ce qu'on savait avec certitude, c'est qu'il détestait les distinctions nobiliaires. Et cependant, il avait conservé de son état de prêtre un attachement au clergé, qui se manifesta le plus clairement du monde lors de la suppression des dîmes. « Ils veulent être libres et ne savent pas être justes », disait-il à cette occasion. Et toutes les fautes de l'assemblée étaient renfermées dans ses paroles. Mais il fallait les appliquer également aux diverses classes de la société qui avaient droit à des dédommagements pécuniaires. L'attachement de l'abbé Seyès pour le clergé aurait perdu tout autre homme auprès du parti populaire. Mais en considération de sa haine contre les nobles, les montagnards lui pardonnèrent son faible pour les prêtres. Ces montagnards formaient le quatrième parti du côté gauche. Robespierre était déjà dans leur rang, et le jacobinisme se préparait par leur club. Les chefs de la majorité du parti populaire se moquaient de l'exagération des jacobins et se complaisaient dans l'air de sagesse qu'ils pouvaient se donner par comparaison avec des factieux conspirateurs. On eût dit que les prétendus modérés se faisaient suivre des plus violents démocrates comme le chasseur de sa meute en se glorifiant de savoir la retenir. On se demandera quel est le parti qui, dans cette assemblée, pouvait être appelé le parti d'Orléans. Peut-être n'en existait-il aucun, car nul ne reconnaissait le duc d'Orléans pour chef, et lui-même ne voulait l'être de personne. La cour, en 1788, l'avait exilé 6 semaines dans une de ses terres. Elle s'était quelquefois opposée à ses voyages continuels en Angleterre. C'est à ses contrariétés que son irritation doit être attribuée. Il avait plus de mécontentement que de projet, plus de velléité que d'ambition réelle. Ce qui faisait croire à l'existence d'un parti d'Orléans, c'était l'idée généralement établie, dans la tête des publicistes d'alors, qu'une déviation de la ligne d'hérédité, telle qu'elle avait eu lieu en Angleterre, pouvait être favorable à l'établissement de la liberté, en plaçant à la tête de la Constitution un roi qui lui devrait le trône, au lieu d'un roi qui se croirait dépouillé par elle. Mais le duc d'Orléans était, sous tous les rapports possibles, l'homme le moins propre à jouer en France le rôle de Guillaume III en Angleterre. Et mettant même à part le respect qu'on avait pour Louis XVI, et qu'on lui devait, le duc d'Orléans ne pouvait ni se soutenir lui-même, ni servir d'appui à personne. Il avait de la grâce, des manières nobles et de l'esprit en société. Mais ses succès dans le monde ne développèrent en lui qu'une grande légèreté de principes. Et quand les tourmentes révolutionnaires l'ont agité, il s'est trouvé sans frein comme sans force. Mirabeau sonda sa valeur morale dans quelques entretiens et se convainquit, après l'avoir examiné, qu'aucune entreprise politique ne pouvait être fondée sur un tel caractère. Le duc d'Orléans vota toujours avec le parti populaire de l'Assemblée constituante. Peut-être par l'espoir très vague de gagner le premier lot, mais cet espoir n'a jamais pris de consistance dans aucune tête. Il a, dit-on, soudoyé la populace. Mais que cela soit ou non, il faut n'avoir aucune idée de la révolution pour imaginer que cet argent, s'il a été donné, ait exercé la moindre influence. Un peuple entier n'est pas mis en mouvement par des moyens de ce genre. La grande erreur des gens de la cour a toujours été de chercher dans quelques faits de détail la cause des sentiments exprimés par la nation entière. Chapitre 7. Des fautes de l'Assemblée constituante en fait d'administration. Toute la puissance du gouvernement était tombée entre les mains de l'Assemblée, qui pourtant ne devait avoir que des fonctions législatives. Mais la division des partis amena malheureusement la confusion des pouvoirs. La défiance qu'excitaient les intentions du roi, ou plutôt celles de sa cour, empêcha qu'on ne lui donnât les moyens nécessaires pour rétablir l'ordre. Et les chefs de l'Assemblée ne combattirent point cette défiance, afin de s'en faire un prétexte pour exercer une inspection immédiate sur les ministres. M. Necker était naturellement l'intermédiaire entre l'autorité royale et l'Assemblée nationale. L'on savait bien qu'il ne voulait trahir ni les droits de l'une ni ceux de l'autre. Mais les députés qui lui restaient attachés, malgré sa modération politique, croyaient que les aristocrates le trompaient, et ils le plaignaient d'être leur dupe. Il n'en était rien, cependant. M. Necker avait autant de finesse dans l'esprit que de droiture dans la conduite, et il savait parfaitement que les privilégiés se réconcilieraient avec tous les partis, plutôt qu'avec celui des premiers amis de la liberté. Mais il accomplissait son devoir en cherchant à redonner de la force au gouvernement, car une constitution libre ne peut jamais résulter du relâchement universel de tous les liens. Le despotisme en est plutôt la conséquence. L'action du pouvoir exécutif étant arrêtée par divers décrets de l'Assemblée, les ministres ne pouvaient rien faire sans y être autorisés par elle. Les impôts n'étaient plus acquittés parce que le peuple croyait que la révolution, dont on lui faisait tant de fêtes, devait lui valoir la jouissance de ne rien payer. Le crédit, plus sage encore que l'opinion, bien qu'il ait l'air d'en dépendre, s'effrayait des fautes que commettait l'Assemblée. Elle avait beaucoup plus de moyens qu'il n'en fallait pour arranger les finances et pour faciliter les achats de grains que rendait nécessaire la disette dont la France était une seconde fois menacée. Mais elle répondait avec négligence aux sollicitations réitérées de M. Necker sur ce sujet, parce qu'elle ne voulait point être considérée comme les anciens États généraux, rassemblés seulement pour s'occuper des finances. C'était aux discussions constitutionnelles qu'elle mettait le plus grand intérêt. À cet égard, elle avait raison, mais en négligeant les objets d'administration, elle provoquait le désordre dans le royaume, et par le désordre, tous les malheurs dont elle-même apportait le poids. Pendant que la France avait à craindre la famine et la banqueroute, les députés prononçaient des discours dans lesquels ils disaient que chaque homme tient de la nature le droit et le désir d'être heureux, que la société a commencé par le père et le fils, et d'autres vérités philosophiques faites pour être discutées dans les livres et non au milieu des assemblées. Mais si le peuple avait besoin de pain, les orateurs avaient besoin de succès, et la disette, à cet égard, leur aurait paru très difficile à supporter. l'Assemblée mit par un arrêté solennel la dette publique sous la sauvegarde de l'honneur et de la loyauté française. Et néanmoins, aucune mesure ne fut prise pour donner à ces belles paroles un résultat positif. M. Necker proposa un emprunt à 5%. L'Assemblée trouva, comme de raison, que 4,5 était moins que 5. Elle réduisit l'intérêt à ce taux et l'emprunt manqua, parce qu'une Assemblée ne peut pas avoir, comme un ministre, le tact qui fait connaître jusqu'où peut aller la confiance des capitalistes. Le crédit, en affaires d'argent, est presque aussi délicat que le style dans les productions littéraires. Un seul mot peut dénaturer ce qu'on écrit, comme une légère circonstance les spéculations qu'on entreprend. C'est toujours la même chose, prétendra-t-on. Mais de telle manière vous captivez l'imagination des hommes, et de telle autre elle vous échappe. M. Necker proposa un don volontaire, et il versa le premier pour y exciter 100 000 francs de sa propre fortune au trésor royal. Lui qui avait déjà été obligé de placer 1 000 000 en rente viagère pour subvenir, par l'accroissement de son revenu, à sa dépense comme ministre. Car durant son second ministère, comme pendant le premier, il refusa tous les appointements de sa place. L'Assemblée constituante loua M. Necker de son désintéressement. Mais elle ne s'occupa pas pour cela plus sérieusement des affaires de finances. Le secret de cette conduite du Parti populaire était peut-être l'envie de se laisser forcer, par la pénurie d'argent, à ce qu'il désirait, c'est-à-dire à s'emparer des biens du clergé. M. Necker, au contraire, voulait rendre l'État indépendant de cette ressource, afin qu'elle fût employée d'après la justice et non d'après les besoins du trésor. Mirabeau, qui aspirait à remplacer M. Necker, se servait de la jalousie que toute assemblée a sur sa puissance, pour lui faire ombrage de l'attachement que la nation témoignait encore au ministre des Finances. Il avait une manière perfide de louer M. Necker. « Je n'approuve pas ses plans, disait-il, mais puisque l'opinion lui décerne la dictature, il faut les accepter de confiance. » Les amis de M. Necker sentaient avec quel art Mirabeau cherchait à lui ravir la faveur publique, en représentant cette faveur sous des couleurs exagérées. Car les nations sont comme les individus, elles aiment moins dès qu'on leur a trop répété qu'elles aiment. Le jour où Mirabeau fut le plus éloquent fut celui où, défendant astucieusement un décret de finance proposé par M. Necker, il peignit les horreurs de la banqueroute. Trois fois, il reparut à la tribune pour effrayer sur ce malheur. Les députés des provinces n'y étaient pas très sensibles. Mais comme on ne savait pas alors ce qu'on a trop appris depuis, à quel point une nation peut supporter la banqueroute, la famine, les massacres, les échafauds, la guerre civile, la guerre étrangère et la tyrannie, l'on reculait à l'idée des souffrances dont l'orateur présentait le tableau. J'étais à peu de distance de Mirabeau quand il se fit entendre avec tant d'éclat dans l'Assemblée. Et quoique je ne crusse pas à ses bonnes intentions, il captiva pendant 2 heures toute mon admiration. Rien n'était plus impressif que sa voix, si l'on peut s'exprimer ainsi. Les gestes et les paroles mordantes dont il savait se servir ne venaient peut-être pas purement de l'âme, c'est-à-dire de l'émotion intérieure. Mais on sentait une puissance de vie dans ses discours, dont l'effet était prodigieux. « Que serait-ce si vous aviez vu le monstre ?» dit Garat dans son spirituel journal de Paris. Le mot d'Esquine sur Démosthène ne pouvait mieux être appliqué, et l'incertitude sur le sens de l'expression qui veut dire prodige, en bien comme en mal, ne laissait pas d'avoir son prix. Toutefois, il ne serait pas juste de ne voir dans Mirabeau que des vices. Avec tant de véritable esprit, il y a toujours quelque mélange de bons sentiments. Mais il n'avait pas de conscience en politique, et c'est le grand défaut qu'on peut souvent reprocher en France aux individus comme aux assemblées. Les uns pensent au succès, les autres aux honneurs, plusieurs à l'argent, quelques-uns, et ce sont les meilleurs, au triomphe de leur opinion. Mais où sont ceux qui se demandent avec recueillement quel est leur devoir, sans s'informer du sacrifice quelconque que ce devoir peut exiger d'eux? Chapitre 8. Des fautes de l'Assemblée nationale en fait de constitution. On peut distinguer dans le Code de la liberté ce qui est fondé sur des principes invariables et ce qui appartient à des circonstances particulières. Les droits imprescriptibles consistent dans l'égalité devant la loi, la liberté individuelle, la liberté de la presse, la liberté des cultes, l'admission à tous les emplois, les impôts consentis par les représentants du peuple. Mais la forme du gouvernement, aristocratique ou démocratique, monarchique ou républicaine, n'est qu'une organisation des pouvoirs, et les pouvoirs ne sont eux-mêmes que la garantie de la liberté. Il n'est pas de droit naturel que tous les gouvernements soient composés d'une chambre des pairs, d'une chambre de députés élus et d'un roi qui, par sa sanction, fasse partie du pouvoir législatif. Mais la sagesse humaine n'a rien trouvé jusqu'à nos jours qui mette plus en sûreté les bienfaits de l'ordre social pour un grand État. Dans la seule révolution, à nous connue, qui ait eu pour principal but l'établissement d'un gouvernement représentatif, on a changé l'ordre de succession au trône, parce qu'on était convaincu que Jacques II ne renoncerait pas de bonne foi au pouvoir absolu, pour l'échanger contre un pouvoir légal. L'Assemblée constituante ne se permit pas de déposer un souverain aussi vertueux que Louis XVI, et cependant, elle voulait établir une constitution libre. Il est résulté de cette situation qu'elle a considéré le pouvoir exécutif comme un ennemi de la liberté, au lieu d'en faire l'une de ses sauvegardes. Elle a combiné une constitution comme on combinerait un plan d'attaque. Tout est venu de cette faute, car que le roi fût ou non résigné dans son cœur aux limites que commandait l'intérêt de la nation, il ne fallait pas examiner ses pensées secrètes, mais fonder le pouvoir royal indépendamment de ce qu'on pouvait craindre ou espérer du monarque. Les institutions à la longue disposent des hommes beaucoup plus facilement que les hommes ne s'affranchissent des institutions. Conserver le roi et le dépouiller de ses prérogatives nécessaires était le parti le plus absurde et le plus condamnable de tous. Mounier, ami prononcé de la constitution anglaise, se rendait volontiers impopulaire en professant cette opinion. Mais il déclara pourtant à la tribune que les lois constitutionnelles n'avaient pas besoin de la sanction du roi, partant du principe que la constitution était antérieure au trône, et que le roi n'existait que de par elle. Il doit y avoir un pacte entre les rois et les peuples. Il serait aussi contraire à la liberté qu'à la monarchie de nier l'existence de ce contrat. Mais, comme une sorte de fiction est nécessaire à la royauté, l'Assemblée avait tort d'appeler le monarque un fonctionnaire public. Il est un des pouvoirs indépendants de l'État, participant à la sanction des lois fondamentales, comme à celle de la législation journalière. S'il n'était qu'un simple citoyen, il ne pourrait être roi. Il y a, dans une nation, une certaine masse de sentiments qu'il faut ménager comme une force physique. La République a son enthousiasme, que Montesquieu appelle son principe. La monarchie a le sien, le despotisme même, quand il est, comme en Asie, un dogme religieux, et maintenu par de certaines vertus. Mais une constitution qui fait entrer dans ses éléments l'humiliation du souverain ou celle du peuple doit être nécessairement renversé par l'un ou par l'autre. Le même empire des circonstances qui, en France, décide de tant de choses, empêcha de proposer une chambre des pairs. Monsieur de Lally, qui la voulait, essaya d'y suppléer en demandant au moins un Sénat à vie. mais le parti populaire était irrité contre les privilégiés, qui se séparaient constamment de la nation. Et ce parti rejeta l'institution durable par des préventions momentanées. Cette faute était bien grande, non seulement parce qu'il fallait une chambre haute, comme intermédiaire entre le souverain et les députés de la nation, mais parce qu'il n'existait pas une autre manière de faire tomber dans l'oubli la noblesse du second ordre, si nombreuse en France. Noblesse que l'histoire ne consacre point, qu'aucun genre d'utilité publique ne recommande, et dans laquelle se manifeste, bien plus encore que dans le premier rang, le mépris du tiers-État, parce que sa vanité lui fait toujours craindre de ne pas pouvoir assez s'en distinguer. Le côté droit de l'Assemblée constituante, c'est-à-dire les aristocrates, pouvait faire adopter le Sénat à vie en se réunissant à M. de Lally et à son parti. Mais ils imaginèrent de voter pour une seule chambre, au lieu de deux, dans l'espoir d'amener le bien par l'excès même du mal. Détestable calcul, quoiqu'il séduisît les esprits par un air de profondeur. Les hommes croient que tromper fait plus d'honneur à leur esprit qu'être vrai, parce que le mensonge est de leur invention. C'est un amour-propre d'auteur très mal placé. Après que la cause des deux chambres fut perdue, on s'occupa de la sanction du roi. Le veto qu'on devait lui accorder serait-il suspensif ou absolu ? Le mot « absolu » retentissait aux oreilles du vulgaire comme s'il avait été question du despotisme, et l'on vit commencer la funeste influence des cris du peuple sur les décisions des hommes éclairés. À peine la pensée peut-elle se recueillir assez en elle-même pour comprendre toutes les questions qui tiennent à des institutions politiques ? Or, qu'y a-t-il de plus funeste que de livrer de telles questions au raisonnement, et surtout aux plaisanteries de la multitude ? On parlait du veto dans les rues de Paris comme d'une espèce de monstre qui devait dévorer les petits-enfants. Il ne faut pas en conclure ce que le dédain de l'espèce humaine inspire à quelques personnes, c'est-à-dire que les nations ne sont pas faites pour juger de ce qui les intéresse. Les gouvernements aussi ont souvent donné de terribles preuves d'incapacité, et les freins sont nécessaires à tous les genres d'autorité. Le Parti populaire ne voulait qu'un veto suspensif, au lieu d'un veto absolu, c'est-à-dire que le refus du roi de sanctionner une loi cessa de droit à l'Assemblée suivante, si elle insistait de nouveau sur la même loi. La discussion s'échauffa. D'une part, l'on soutenait que le veto absolu du roi empêchait toute espèce d'amélioration proposée par l'Assemblée, et de l'autre, que le veto suspensif réduirait le roi, tôt ou tard, à la nécessité d'obéir en tout aux représentants du peuple. M. Necker, dans un mémoire où il traite avec une rare sagacité toutes les questions constitutionnelles, indiqua, pour terme moyen, trois législatures au lieu de deux, c'est-à-dire que le veto du roi ne céda qu'à la proposition réitérée de la troisième assemblée. Voici quels étaient les motifs énoncés par M. Necker à ce sujet. En Angleterre, disait-il, le roi n'use que très rarement de son veto, parce que la Chambre des pairs lui en épargne presque toujours la peine. Mais, comme il a été malheureusement décidé qu'en France, il n'y aurait qu'une chambre, le roi et son conseil se trouvent réduits à remplir tout à la fois les fonctions de chambre haute et de pouvoir exécutif. La nécessité de se servir habituellement du veto oblige à le rendre plus flexible, comme on a besoin d'armes plus légères quand il faut les employer plus souvent. On doit être assuré qu'à la troisième législature, c'est-à-dire au bout de 3 ou 4 ans, la vivacité des Français, sur quelque sujet que ce soit, sera toujours calmée. Et le cas contraire arrivant, il est également certain que, si 3 assemblées représentatives de suite demandaient la même chose, l'opinion serait assez forte pour que le roi ne dût pas s'y refuser. Dans les circonstances où l'on se trouvait, il ne fallait pas irriter les esprits par le mot de veto absolu, quand dans le fait, par tout le pays, le veto royal plie toujours plus ou moins devant le vœu national. On pouvait regretter la pompe du mot, mais il fallait aussi en craindre le danger, quand on avait placé le roi seul en présence d'une assemblée unique, et lorsque, étant privé des gradations de rang, il semblait, pour ainsi dire, tête à tête avec le peuple, et forcé de mettre sans cesse en balance la volonté d'un homme et celle de 24 millions. Cependant, M. Necker protestait, pour ainsi dire, contre ce moyen de conciliation tout en le proposant. Car, en montrant comment le veto suspensif était le résultat nécessaire de l'institution d'une seule chambre, il répétait qu'une seule chambre ne pouvait s'accorder avec rien de bon ni de stable. Chapitre 9. Des efforts que fit M. Necker auprès du Parti populaire de l'Assemblée constituante pour le déterminer à établir la constitution anglaise en France. Le roi n'ayant plus de force militaire depuis la révolution du 14 juillet, il ne restait à son ministre que le pouvoir de la persuasion, soit en agissant immédiatement sur les députés, soit en trouvant assez d'appui dans l'opinion pour influer par elle sur l'Assemblée. Pendant les 2 mois de calme, dont on put jouir encore depuis le 14 juillet 1789 jusqu'à l'affreuse insurrection du 5 octobre, on voyait déjà reparaître l'ascendant du roi sur les esprits. M. Necker lui conseilla successivement diverses démarches qui eurent l'approbation des provinces. La suppression du régime féodal, prononcée pendant la nuit du 4 août, fut présentée à la sanction du monarque. Il y donna son consentement, mais en adressant à la députation de l'Assemblée des observations auxquelles tous les gens sages applaudirent. Il blâma la rapidité avec laquelle des résolutions si nombreuses et si importantes avaient été prises. Il fit sentir la nécessité de dédommager équitablement les ci-devant propriétaires de plusieurs des revenus supprimés. La déclaration des droits fut de même offerte à la sanction royale avec quelques-uns des décrets qu'on avait déjà rendus sur la Constitution. M. Necker fut d'avis que le roi devait répondre qu'il ne pouvait sanctionner que l'ensemble d'une Constitution et non une portion séparée, et que les principes généraux de la Déclaration des droits, très justes en eux-mêmes, avaient besoin d'être appliqués pour être soumis aux formes ordinaires des décrets. En effet, que signifiait l'acquiescement royal à l'énonciation abstraite des droits naturels? Mais il existait depuis longtemps en France une telle habitude de faire intervenir le roi en toutes choses, qu'en vérité, les républicains auraient bien pu lui demander sa sanction pour la République. L'institution d'une seule chambre et plusieurs autres décrets constitutionnels qui s'écartaient déjà en entier du système politique de l'Angleterre causaient une grande douleur à M. Necker, car il voyait dans cette « démocratie royale », comme on l'appelait alors, le plus grand danger pour le trône et pour la liberté. L'esprit de parti n'a qu'une crainte. La sagesse en éprouve toujours deux. On peut voir dans les divers ouvrages de M. Necker le respect qu'il portait au gouvernement anglais et les arguments sur lesquels il se fondait pour vouloir en adapter les principales bases à la France. Ce fut parmi les députés populaires, alors tout puissants, qu'il rencontra cette fois d'aussi grands obstacles que ceux qu'il avait combattus précédemment dans le Conseil du roi. Comme ministre et comme écrivain, il a toujours tenu, à cet égard, le même langage. L'argument que les deux partis opposés, aristocrates et démocrates, s'accordaient à faire contre l'adoption de la Constitution anglaise, c'était que l'Angleterre pouvait se passer de troupes réglées, tandis que la France, comme État continental, devant maintenir une grande armée, la liberté ne pourrait pas résister à la prépondérance que cette armée donnerait au roi. Les aristocrates ne s'apercevaient pas que cette objection se retournait contre eux, car si le roi de France a, par la nature des choses, plus de moyens de force que le roi d'Angleterre, quel inconvénient y a-t-il à donner à son autorité au moins les mêmes limites ? Les arguments du parti populaire étaient plus spécieux, puisqu'ils les appuyaient sur ceux-mêmes de ses adversaires. L'armée de ligne, disait-il, assurant au roi de France plus de pouvoir qu'à celui d'Angleterre, il faut donc borner davantage sa prérogative, si l'on veut obtenir autant de liberté que les Anglais en possèdent. À cette objection, M. Necker répondait que, dans un gouvernement représentatif, c'est-à-dire fondé sur des élections indépendantes et maintenu par la liberté de la presse, l'opinion a toujours tant de moyens de se former et de se montrer qu'elle peut valoir une armée. D'ailleurs, l'établissement des gardes nationales était un contrepoids suffisant à l'esprit de corps des troupes de ligne, en supposant, ce qui n'est guère probable, que, dans un État où les officiers seraient choisis, non dans telle classe exclusivement, mais d'après leur mérite, l'armée ne se sentit pas une partie de la nation et ne fit pas gloire d'en partager l'esprit. La Chambre des Pairs, ainsi que je l'ai déjà dit, déplaisait aussi aux deux partis, à l'un comme réduisant la noblesse à 100 ou 150 familles, dont les noms sont historiques, à l'autre comme renouvelant les institutions héréditaires contre lesquelles beaucoup de gens en France sont armés, parce que les privilèges et les prétentions des gentilshommes y ont blessé profondément la nation entière. M. Necker fit de vains efforts néanmoins pour prouver aux communes que changer la noblesse conquérante en magistrature patricienne, c'était le seul moyen de détruire radicalement la féodalité. Car il n'y a de vraiment détruit que ce qui est remplacé. Il essaya de démontrer aussi aux démocrates qu'il valait beaucoup mieux procéder à l'égalité en élevant le mérite au premier rang qu'en cherchant inutilement à rabaisser les souvenirs historiques dont l'effet est indestructible. C'est un trésor idéal que ces souvenirs, dont on peut tirer parti en associant les hommes distingués à leur éclat. « Nous sommes ce qu'étaient nos aïeux », disait un brave général français à un noble de l'Ancien Régime. Et c'est pour cela qu'il faut une institution où les anciennes tiges des races se mêlent aux nouveaux rejetons. En établissant l'égalité par le mélange, on y arrive bien plus sûrement que par les tentatives de nivellement. Cette haute sagesse, développée par un homme tel que M. Necker, parfaitement simple et vrai dans sa manière de s'exprimer, ne put cependant rien contre les passions, dont l'amour-propre irrité était la cause. Et les factieux, s'apercevant que le roi, bien guidé par les conseils de son ministre, regagnait chaque jour une popularité salutaire, résolurent de lui faire perdre cette influence morale après l'avoir privé de tout pouvoir réel. L'espoir d'une monarchie constitutionnelle fut donc de nouveau perdu pour la France, dans un temps où la nation ne s'était point encore souillée de grands crimes, et lorsqu'elle avait sa propre estime, aussi bien que celle de l'Europe.